Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Mais qu'est-ce que tu fous en short, Guillaume, là?
On bosse pas aujourd'hui.
Mais comment ça?
Ben non, c'est férié.
Mais enfin, on s'en fout, non?
Ah non, on s'en fout pas. Lundi de Pentecôte, on respecte. C'est sacré, je te signale.
Et depuis quand tu respectes les fêtes religieuses, toi?
Moi, mais toujours respecté. Tout ce qui est Jésus, Jésus-Marie-Josette et tout.
D'accord. Alors attends, tu peux me rappeler ce que c'est exactement le lundi de Pentecôte?
Oh bah, ça c'est facile. C'est Jésus. C'est Jésus qui change l'eau en vin. Voilà, c'est Juliette qui m'a expliqué.
C'est n'importe quoi.
Mais si, après, il y a l'histoire de Judas Bricot, je sais pas quoi, j'ai pas pigé. Tu sais, Juliette, après 23h,
c'est pas facile. Pas possible, Guillaume, là, tu te fous de moi. Bon, il est où, Alex?
Ah non, mais Alex, il est même pas venu. Hein.
Quoi?
Mais non, pour lui, la religion, c'est encore plus important que pour moi. Il est pastafariste.
Ah bon, c'est férié chez eux?
Ça, je sais pas, mais il est dans le respect des autres religions, quoi.
Vous êtes pénible. Hein. Genre, en plus, normalement, tout le monde travaille. Je te rappelle que c'est le jour de solidarité avec les personnes âgées.
Bah, et alors, t'as envie d'être solidaire avec Gérard Collomb, toi?
Ouais, c'est vrai que vu comme ça.
Ouais, et en plus, c'est une mesure de droite, le lundi de Pentecôte, travailler, je te rappelle. Oui, oui, c'est Jean-Pierre Raffarin qui avait décidé. Ah, mais attends, mais t'es droite en fait.
Bah non.
Oh, elle est de droite.
Non, pas du tout, mais j'aime bien Jean-Pierre Raffarin. Voilà.
Oui, bah moi aussi en tant que philosophe. Mais bon, voilà, on prend une journée, on met des gauchias à l'antenne et puis c'est
comment ça, on met des gauchias à l'antenne?
Mais oui, on fait un florilège, Lio, Ariane Ascaride et hop, on résiste comme ça.
Ah ouais, ouais.
Oui, et encore t'as de la chance parce qu'Alex, il voulait passer une compile de Michel Torricella en boucle pendant une heure, d'accord?
Ah non, mais là vous me fatiguez, hein.
Bah oui, bah c'est pour ça, repose-toi, c'est un jour de congé, quoi.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'Open Space pour une heure de disruption avec deux visiteurs. D'abord la chanteuse Lio, accompagnée de son parolier Jacques Duval, qui ne s'attendait pas à deviser sur le thème du chanté faux. Qui l'ont un peu pris pour eux, mais ça s'arrange, vous allez voir. Et puis entrera en scène la comédienne Ariane Ascaride, avec qui nous avons évoqué cet Américain qui a décidé de ne plus suivre aucune information depuis l'élection de Donald Trump. Et on a parlé avec elle aussi du plaisir que peut procurer l'annulation d'un rendez-vous à la dernière minute. Vous êtes là, Juliette, heureusement. Bonjour Juliette, qu'est-ce qu'on a pour l'apéro?
Alors, pour l'apéro, on va commencer doucement avec André Manoukian qui nous parlera du dernier album de Lio, donc Lio Canta Caimi.
Ouais.
Et puis alors, ensuite, vous savez ce que c'est que le Knout, Charline?
Le Knout?
Oui, écoutez la chronique de Guillaume Meurice, ça nous parlera démocratie avec la réélection de Vladimir Poutine.
D'accord.
Et puis pour finir, du sérieux, hein, je vous parlerai d'un livre d'entretien de Véronique Olmy, Une force, une consolation, dans laquelle elle revient sur les influences littéraires d'Ariane Ascaride. Mm-hmm. Et enfin, même si on est lundi, Frédéric Fromet viendra pousser la chansonnette à la toute fin de l'émission.
Ouais, donc vous vous êtes mis vous-même dans le panier à pique-nique, si je
comprends. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Allez, donc allons-y, c'est parti.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Lio, bienvenue Jacques Duval. Vous venez nous voir pour votre nouvel album, Lio Canta Caimi, C-A-Y-M-M-I, qu'on ne connaît pas en Europe, mais qui est une star au Brésil, star des années 30, si je ne m'abuse. Alors, qui est Caimi?
Alors, je viens tout de suite vous dire, je suis l'imposture, parce que, en fait, Gal Costa, qui elle est une très très bonne chanteuse, a sorti Gal Canta Caimi. Je vous le montre pour vous dire que Caimi existe.
Vous avez amené le vinyle.
C'est un vinyle qui date de quelle année?
74.
Si quelqu'un se demande pourquoi je suis là, c'est justement pour rattraper ce genre de choses-là, parce que tu es là pour vendre ton disque, Lio Canta Caimi, qui est 10 fois mieux que Gal Canta Caimi.
Ça commence bien. J'ai tellement peur dans la promo, Lio, que je voulais dire.
Mais alors, moi, ma question c'était, est-ce que vous aviez envie de faire découvrir ce Caimi ou est-ce que c'était un plaisir personnel de chanter ces chansons?
C'était un plaisir personnel aussi parce qu'on était vraiment au bout du rouleau, en fait, en fin de tout quand je suis retournée à Bruxelles. D'ailleurs, je suis retournée à Bruxelles pour mourir en paix, loin de Paris, de cette ville lumière.
Donc c'est un échec.
C'est un échec total. Et j'arrive à Bruxelles en 2010 et je rencontre Duval de nouveau, je lui dis viens dans ma vie et je lui dis est-ce que tu as encore envie de quelque chose? Et il me fait non, à part me foutre en l'air, j'ai envie de rien. Et je lui dis c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, pas tout de suite.
Vous confirmez Jacques Duval?
Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais le choix entre Prozac et Caimi. Et donc on a choisi KMI, voilà.
Absolument.
Oui, ne faites pas les deux en même temps d'ailleurs. Non, mais, alors non, ça c'est très très dangereux. Oui.
Ça c'est trop dangereux parce que là c'est, on est tellement heureux que franchement on part, on devient satellite de Jupiter et on est perdu pour la Terre.
Nous on connaît Jacques Duval parce qu'on est, belge, mais les Français le connaissent moins bien. Lio, si vous deviez le présenter, André Manoukian, on en a parlé avant, il m'a dit c'est le Gainsbourg belge.
Bah, même, enfin,
mais oui, je pense qu'en France il est connu quand même.
Mais il n'a pas assez par rapport à ce que nous on pense.
Il y a plein d'artistes français pour lesquels il a travaillé, bien sûr.
Bon, ok, ma question vous emmerde, on passe à la suivante.
Mais moi, je vais te dire, je donne 10 Duval pour un Gainsbourg. De toute façon, je trouve Gainsbourg absolument insupportable.
Non, je donne 10.
C'est l'inverse.
Je donne 10 Gainsbourg pour un Duval.
Non, 10 fois, je veux écouter du Gainsbourg et être avec du Duval et être avec Duval plutôt Gainsbourg. Parce que moi, j'ai eu la chance.
En tout cas, il y a l'alcool qui vous réunit.
Lio, c'est un très bel album où vous chantez en portugais, donc.
Je te remercie, Charline.
Bah oui.
C'est une journaliste, c'est la carte de presse, hein, ça rigole pas.
Non, mais c'est vrai.
Alors, il y a de la musique aussi.
Mais non, mais on vous connaît, on vous connaît sur Volté, etc. On met le disque. Et alors on vous découvre, voilà, dans la douceur, la finesse, le style de cette musique.
Nostalgie positive, j'ai noté.
Et puis dans l'univers du son et de la parole lusophone, quoi.
Oui.
Vous aviez envie d'aller vers là, d'y revenir, de comment ça s'est passé?
Mais j'avais envie de vivre, et je crois que à un moment donné, on a vraiment le choix. Est-ce que c'est la pulsion de mort ou est-ce que c'est la pulsion de vie qui gagne? Et clairement. C'est vrai que la vie est vraiment dure, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que la vie? Enfin, je connais pas, hein, peut-être la mort, mais
testé,
je
ouais.
Voilà, on n'a pas testé.
Il y a des morts qui disent que c'est pas mal, finalement. Il y en a qui, notamment Gérard Collomb, qui est mort depuis un bon bout de temps, ça lui va, il est ministre.
Mais c'est la première fois que vous chantez en portugais,
oui.
Comme ça.
Mm-hmm.
Et donc, quand ça va mal, vous revenez à vos racines
non,
pures
en fait,
et dures.
Il vient de me faire comprendre que j'avais très, très envie de refaire quelque chose avec lui et avec Jay Alansky. Et je lui demandais, mais tu as envie de quoi? Tu as envie de... Et en fait, il avait envie de rien. Et moi, c'est vrai. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de lui. C'était qu'il revienne et qu'il me réécrive des chansons. Alors, il a fallu trouver un lieu d'entente commun. Je crois qu'en fait, il n'a pas voulu me lâcher. Et il s'est dit, je peux lui donner Caïmi, que c'est des chansons magnifiques qu'elle comprendra, parce qu'elle est portugaise. Oui. Donc, j'ai un... Et moi, ce que je me suis dit, c'était qu'il fallait surtout qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que ça avait été mes débuts, et que quand on est...
C'est cet homme, Banana Split.
C'est cet homme-là, Banana Split, et plein d'autres choses.
Bien sûr, et la première.
Et même Amoureux solitaire, même si Ellie dit que c'est elle qui l'a écrit. Non, il faut quand même bien dire que c'est Duval qui l'a écrit. Voilà.
Lio et Jacques Duval sont avec nous jusqu'à 18h. Et André Manoukian, qui a écouté Lio Canta Caïmi avec Jacques Duval dans ce studio.
Alors ce disque, c'est une histoire de retrouvailles entre soi et soi. Entre un personnage et une personne. Persona, ça vient du latin. Personare, et ça veut dire parler à travers. Le personnage désignait donc le masque que portaient les acteurs de théâtre dans les tragédies anciennes. Et ce masque, il avait deux fonctions. Il donnait à l'acteur l'apparence de celui qui jouait, et il portait la voix loin, une sorte de haut-parleur en somme. Un haut-parleur pour beau parleur. Jung, mon copain Carl Gustav, il s'est saisi du mot persona pour désigner cette part en nous qui se déguise pour exister dans la société. Notre moi se mettrait un costume pour briller aux yeux des autres. Le problème, c'est que ce costume nous mange parfois, nous brûle même. Regardez Hercule et la tunique de Nessus qui lui crame à la peau. Il arrive un moment dans la vie des artistes où ils ont envie de changer de costume. Parfois même de le balancer, ce costume. En tout cas, il arrive un moment où ils ne sont plus effrayés par la nudité de leur moi. Lio s'appelle en réalité Wanda Maria Ribeiro Fortudo Tavares de Vasconcelos. C'est l'histoire d'une rencontre entre un personnage et une personne, mais alors la personne pour le coup est plus habillée, nue qu'habillée. C'est aussi l'histoire de la rencontre entre cette même personne et ses racines. C'est une histoire de portugaise qui redécouvre la joie de chanter sa langue natale, passée par le plus beau pays du monde, le Brésil. C'est l'histoire d'une re-rencontre avec un autre personnage qui était là au début de la vie de Lio, Jacques Duval, auteur belge d'une élégance folle qui découvrit une petite pinquette de 16 ans habillée dans un manteau en cuir trop grand de sa maman. Très inspiré par cette muse, il convoqua immédiatement son complice Jalansky pour partir à la conquête des ondes avec en figure de proue une sirène hors du commun. Oui, les muses se transforment parfois en sirènes et là, il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour ne pas tomber dans les flot de la libido. La lio libido. La lio bido. La bido bido bido. Ah,
mais
je, voilà, c'est ça. Mais je m'égare. C'est l'histoire d'une rencontre entre un auteur et un disque à la FNAC. Oui, encore en 2018, des gens qui achètent des disques à la FNAC. Duval découvre un disque de stars brésiliennes parmi lesquels Chico Buarque, Tom Jobim, Gal Costa, qui chantait un auteur inconnu chez nous, répondant au doux nom de Dorival Caymmi. J'ai instantanément craqué pour ces mélodies merveilleuses écrites dans les années 30, nous dit Jacques Duval, d'une sophistication délicieuse dans la simplicité la plus désarmante. Dorival Caymmi était baianais. Bahia est la ville la plus africaine du Brésil. C'était le port par lequel entraient les esclaves. C'est là qu'est né le candomblé. C'est le pays des sorcières, bouche dorée, héroïne de Corto Maltese. Corto Maltese dessiné par le génial Hugo Pratt. Hugo Pratt qui dessina Lio sur une pochette. En fait, c'est juste l'histoire des belles rencontres de la vie et d'une Lio apaisée qui nous chante Nunca mais, jamais plus, mais jamais plus, mais non, mais pourquoi jamais plus? Non, mais ça va pas bien la tête, non?
Eu queria escrever, mas depois desisti, preferi te falar. Assim, a sós, terminar nosso amor, para nós é melhor, para mim é melhor. Convenhamos, convenhamos, nunca mais vou querer o teu beijo. Nunca mais, nunca mais vou querer teu amor. Nunca mais. Uma vez me pediste sorrindo, eu voltei. Outra vez me pediste chorando e eu voltei. Mas agora não posso, não quero, nunca mais. O que tu me fizeste, amor, foi demais. Que tu me fizeste, amor, foi demais. Nunca mais vou querer o teu beijo. Teu amor, nunca mais. Qu'un sourire tu m'as fait revenir dans tes bras. Puis d'une larme tu m'as fait revenir dans tes bras. Tu ne feras plus revenir dans tes bras. Car cette fois tu me fais devenir moins bête que ça. Car cette fois tu me fais devenir moins bête.
C'est un extrait du nouvel album de Lio, Lio Canta Caymmi, Caymmi, chanteur brésilien des années 30, donc Jacques Duval a redécouvert, fait chanter à Lio. Et vous chantez en portugais, mais il y a des... À chaque fois, il y a une phrase ou un couplet en français. C'est pour qu'on puisse percevoir l'esprit de la chanson. Comment?
Oui.
Pourquoi?
Pour ça, parce que je trouvais que ce que racontaient les chansons d'une manière tellement simple, c'était toute la vie qui était là. Mais une vie qui vous... qui ne gomme rien. C'est, on peut parler, justement, c'est la vie tellement forte qu'on peut parler de la mort, on peut parler de la perte, on peut parler du désespoir, parce que c'est, ça ne vous entraînera pas dans la pulsion de mort. On restera vivant parce que, en fait, on est des gens d'espoir et que dans cette musique, il y a toujours un lendemain. Et c'était ça que j'adorais.
Et Lio a retrouvé Jacques Duval qui est avec nous dans ce studio pour notre plus grand plaisir sur France Inter. On va aborder ce sujet avec vous deux. Nous pensons aller de l'avant grâce au désir et aux récompenses. Mais il semblerait que le véritable moteur de nos choix, ce serait la facilité. La commodité qui est apparue notamment avec l'électroménager, hein, machine à laver et les plats préparés. Et la commodité, c'est l'allié naturel de quoi ? Du monopole, des économies d'échelle, du pouvoir de l'habitude. Et quand on prend certaines habitudes, l'économie d'échelle peut dégringoler.
Bon, pour le petit déjeuner, on veut du pâté, du saucisson
et des crêpes.
C'est ça, les crêpes. Pour le goûter, il nous faut du champagne et des gâteaux.
Le linge, il est à laver, à repasser pour demain. T'as compris ?
Elle comprend que dalle.
Maria, sers-moi un verre de lait.
Sers-toi toi-même. Je les connais, les fils à riches. Ça me fait pas peur. Et puis, on ne dit pas tout, on dit vous. S'il vous plaît aussi.
C'est un extrait des Femmes du sixième étage, le film de Philippe Le Guay. Et vous avez entendu Natalia Verbeek et puis les Camille Gigot et Jean-Charles Deval dans le rôle des deux petits cons. Alors c'est un juriste américain qui a écrit une tribune dans le New York Times qui est relayée sur lemonde.fr et qui nous explique ceci dans sa tribune. Voilà, on pense être mu par le désir, par la récompense, etc. Et souvent aussi la facilité modèle nos vies. Alors j'ai envie de vous demander à vous, Lio et Jacques Duval, est-ce que vous avez conscience, pour certains gestes ou certaines choses du quotidien, de verser dans une facilité, une commodité
à mon avis, elle pas, mais moi complètement. Ouais.
Ah,
moi,
c'est
je
vrai
suis le Georges Moustaki 2.0.
Bah, évidemment, elle lui demande d'écrire des chansons et lui trouve un autre chanteur à reprendre. Ah, évidemment, qu'il est dans la facilité.
Bah, ouais. C'est horrible.
C'est fini, ça.
Jacques Duval, par exemple, vous êtes plus plat préparé et Lio, elle cuisine. Ce serait ça ?
Voilà, c'est exactement ça.
Et voilà.
C'est la réalité.
Oui. Alors moi je trouve que c'est pas du tout la facilité, je pense qu'on nous a réduit le temps. Je pense qu'on nous a dit il faut aller vite, il faut tout faire, ouais. Et vous n'avez pas le droit de choisir de vous arrêter. Et par exemple, prenons les femmes. Les femmes, elles travaillent, je trouve ça super. Mais quand elles sont enceintes et qu'elles accouchent, je vous assure, on est à zéro, quoi, parce qu'on a donné vraiment tout ce qu'on avait de meilleur. Parce que nous avons cette compétence et je dirais même cette puissance. Moi, dans mon utérus, je fabrique de l'humain. Et je le fabrique de tout mon cœur, de tout mon être,
avec
tous
mes
sels. Mais on bosse parce que c'est tous mes sels minéraux, c'est mes dents qui tombent, c'est mes cheveux qui lâchent. Et je vous rappelle qu'il y a encore quelques temps, parce qu'on mettait un enfant au monde, on avait droit à un an à enlever de travail pour avoir notre retraite. Eh bien, ce sont les féministes que je n'aime pas, ces féministes qui n'aiment pas les femmes, qui aiment les femmes mutilées, qui veulent pas de genre, pas d'utérus, pas rien du tout. Donc moi qui suis une femme avec un utérus, ça veut dire elles veulent m'arracher mon utérus. Non, je ne veux pas. Je veux mon utérus, je l'aime.
Ça va, Lio, en ce moment, vous?
Il y a des moments, j'ai très 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 peur, parce que figure-toi que j'en ai fait 4 des filles. Et je me dis, le coup de l'utérus, il va revenir, là. Et je n'aime pas ça. Donc moi, ce que je pense, c'est ça.
Même avec beaucoup d'enfants, vous résistez à ça, à cette facilité. Vous leur préparez des plats.
Oui, oui, mais j'aimerais beaucoup pas avoir foutu tous les pères dehors. J'aimerais beaucoup qu'ils soient encore à côté de moi, qu'ils m'aident avec leur thune, qu'ils m'aident avec leur temps, qu'ils m'aident à leur dire non, parce que moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à dire non à mes enfants, parce que c'est comme dire non à une partie de moi-même, parce que je les ai fabriqués et vraiment, j'ai beau savoir qu'en tant que mère et que fonction maternelle, je dois dire non. Je voudrais dire oui. Je voudrais tellement dire oui. Et là, si le père ou l'ami, ok, ne me dit, vas-y, dis non, ils vont t'aimer quand même. Attends, donne un peu de temps. Mais non, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'ils vont pas m'aimer demain. Je ne pourrais pas supporter ça. Eh bien, voilà. Et donc, moi, j'ai foutu tous mes pères dehors. Alors, effectivement, je suis seule face à mes enfants.
Mais il y a un petit héritage quand même. Ils vont vous aimer, Lio.
De quoi ?
Il y a un petit héritage. Ils vont vous aimer jusqu'au bout, je crois.
Et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que maintenant qu'enfin j'ai fait 4 ans de psychanalyse avec Zemmour et que j'ai enfin compris qu'effectivement c'est formidable d'être libre, mais c'est très très bien d'être accompagné. Eh ben, les pères, ils sont vraiment définitivement partis. Moi, j'ai 55 ans, je n'intéresse plus aucun homme et donc je suis seule.
Vis-à-vis sur le coup.
On va lancer un appel. Attention. Vous êtes encore un peu jeune pour moi, mais dans quelques années.
En tout cas, on a compris que Lio ne verse pas dans la facilité.
Pas du tout, et je cuisine, et donc on peut reprendre le temps, on peut tout à fait dire non. On
être
peut
dans la, cette résistance-là.
Et être là-dedans.
Voyez Jacques Duval, mais voilà, bien sûr. Évidemment.
Mais il le sait, il vient chez moi, il vient manger mes omelettes aux truffes.
Heureusement que tu ne me fais pas des plats préparés.
Mais jamais.
Lio est avec nous, accompagné de Jacques Duval. On va aborder ce dernier sujet. Jacques, attention, vous allez pouvoir aussi intervenir et rétablir toute la vérité. Le site d'Inforue 89 a demandé à ses lecteurs de témoigner sur la douleur de chanter faux. On a plein d'occasions de le subir, hein, karaoké, chorale, salle de bain, église. Exemple de témoignage, je suis persuadée d'avoir une voix enchanteresse, mais ça ne me semble pas être l'avis de tout le monde. Attention.
Je veux pas vous importuner, monsieur, dame, mais comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas Eddie Barclay ?
Silence, Manon, ou tu vas prendre une claquade.
Hé, écoute là ! Cassez la voix ! Cassez la voix !
C'est Marianne Chazelle dans Les Visiteurs, film de Jean-Marie Poiré. Alors, j'avais prévu des questions, mais au début de l'émission, dans le sommaire, quand on a dit « chantez faux », vous êtes intervenu en disant « ah, c'est moi », etc.
C'est moi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jacques, Lio ?
Absolument rien. Parce que quelque chose doit vouloir dire quelque chose ici.
Ah, d'accord.
Oui, oui, si, mais c'est parce que moi, on me le dit, par exemple, Jean Schultes qui m'appelle « la sardine frétillante quand il m'aime bien et la sardine farouche ou effarouchée quand il m'engueule ». Je lui ai fait écouter ce disque et il a épinglé à peu près toutes les chansons en me disant « bon, ça se discute, bien sûr, c'est des couleurs. Moi, je dis que c'est bleu, il y en a qui diront que c'est faux. Mon meilleur ami, qui est premier prix du conservatoire, trouve que franchement, tu devrais arrêter de chanter parce que c'est vraiment très, très, très faux. »
Sympa le pote, en tout cas.
Non, c'est un ami. Et il me dit ça. Et de fait,
l'oreille a guéri quand même, non ?
Non, mais je dois concevoir que je ne suis pas tout à fait juste. Je me balade un peu sur les notes. Et...
Mais est-ce qu'on ne peut pas différencier chanteur et interprète ? Parce que vous y mettez du vôtre, que peut-être quelqu'un qui chanterait avec une précision n'en mettrait pas cette sensibilité-là.
Oui, et puis je pense que les gens sont habitués avec tous les concours qu'il y a actuellement à ce que le chant devienne une sorte d'athlétisme presque. Quoi. Je veux dire, c'est presque un exercice sportif,
oui,
c'est ça. Oui, ouais.
Autre performance, alors.
Manoukian, Lio, vous étiez rencontrés sur un petit concours où on jugeait les gens, si je ne me trompe. Et depuis La Nouvelle Star, on juge beaucoup. Et par exemple, dans les Uber, vous pouvez donner des notes. Alors on s'est dit, le sketch du jour, Manoukian et Lio jugent les chauffeurs Uber. On y va, et nous trois, on fait des chauffeurs.
Bonjour monsieur.
Ouais, salut mec, salut meuf, on va où ?
Là là, je sens qu'on va tutoyer les étoiles.
Ok, c'est parti pour la place de l'étoile.
Il est pas un peu bizarre ce mec ?
Tu trouves ? Moi j'aime bien son univers. Il y a une sorte de folie rien qu'à sa façon de caresser le volant.
Moi je vois plutôt un imitateur de Samy Nasseri.
Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, la barre de shit sous le pare-brise ?
Toi tu as avancé ta poubelle, connard ! T'as évolué comme une gonzesse aussi là !
En tout cas, c'est un vrai tempérament.
Regardez-moi tous ces abrutis dans leur caisse pourrie.
Ah oui, d'accord. Ok, on vous a bien entendu. Merci, jeune homme.
Ah ouais, c'est bon, je suis retenu pour la finale, là, c'est bon ?
Bon, il faut que je sois franche avec vous. Hein.
Ça sent le clash, là.
Conduisez pour vous, mais ne conduisez surtout pas.
Allez,
les autres.
Candidat suivant.
Bonjour.
Ah, une femme au volant.
J'adore. Regarde comme elle empoigne le changement de vitesse.
Alors, si vous le souhaitez, il y a une petite bouteille d'eau, puis vous pouvez vous servir de bonbons.
Moi aussi, j'ai des bonbons.
Bon, mademoiselle, foutez-lui une claque, parce que vraiment, là, il exagère.
Non, moi, j'aime beaucoup l'analyse de monsieur Manoukian.
J'y crois pas, elle fait du charme.
Ça vous ennuie, monsieur Manoukian, si j'emprunte ce cul-de-sac?
C'est ça, continue, on a encore jamais eu de candidate toute nue. Oh, à part moi, oui, une fois, je me baladais.
Je te trouve un peu sévère, là.
Pour moi, c'est non, hein, c'est non, c'est rouge, c'est candidat.
J'étais sur la route toute la sainte journée.
Oh là, la merde, il y en a qui essaye de chanter.
À tous les coups, ce gars se croit dans la nouvelle star.
J'ai pas eu de doute en toi, Simpson.
À propos de doute, vous avez votre permis, monsieur?
C'est vrai qu'on dirait un peu Schumacher sur une piste de ski. Alors ça, c'est dur.
Ah bah oui, parce qu'au moins dans la nouvelle star, on risquait juste de perdre nos oreilles.
Hein. Sur la route.
Allez, bien, ça lâche.
Mais pour aller où?
Dans un monde sans système de notation.
Ah oui, mais alors c'est où?
Mais qui sonne à la porte? Bon, ce serait pas Guillaume Meurice?
Bah si.
Ah bon?
Parce que figurez-vous que le 18 mars dernier, contre toute attente, Vladimir Poutine a été réélu à la tête de la Russie. Et ça, forcément, ça l'avait bien fait marrer, Guillaume.
Oui, moi je voulais vous parler démocratie avec les élections russes et saluer l'élection voilà, du camarade Vladimir Vladimirovitch Poutine, l'homme fort de la Russie, celui qui tue des ours à main nue. Non, c'est des ours ou des homosexuels, je sais plus. C'est lesquels qui écoutent Mylène Farmer? Non, je sais plus. Enfin, bref, c'est des ours, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, il est très fort, ce que je voulais dire, c'est qu'il est très fort. Et les Russes, c'est les invités d'honneur du Salon du Livre de Paris, qui a lieu en ce moment, toute la littérature russe mise à l'honneur, Léon Tolstoï, Anton Tchekhov, Grishka Bogdanov, formidable, tout le monde est là, j'y suis allé, et j'ai pu donc discuter de Poutine avec les amis de la Russie éternelle, et on peut dire que j'ai fait des belles rencontres.
Non mais de toute façon les Russes, mais putain, mais moi j'ai fait un bouquin sur le Knout, vous savez ce que c'est le Knout?
Qu'est-ce que c'est le Knout?
C'est le plus grand fouet qui existe au monde.
Le fouet?
C'est un fouet terminé par des billes de plomb.
Quel rapport avec Poutine?
Ah ben... Ils ont été dressés, les Russes.
Ah, voilà, d'accord.
Au Knout. Je suis la collectionneuse de Knout. Bah, les Russes,
vous êtes collectionneuse
ont été...
de Knout.
Bon, je pratique, je suis une pratiquante.
Ah, bah, dis donc, une pratiquante du Knout. Je vous avais dit que j'avais fait des belles rencontres. Voilà, la diplomatie du Knout. Alors là, je suis pas spécialiste. Hein. Je refile le dossier à Bernard Guetta, qui cracherait pas, on le dit, sur un petit coup de Knout de temps en temps. Mais bon, ça, c'est après, c'est la vie privée de Bernard. Enchaînons. Est-ce que la Russie, puisque la question, c'est est-ce que la Russie ne serait pas une sorte, quand même, de dictature?
Non, je pense que c'est dans le label de démocratie, de fonctionnement démocratique, il y a eu des élections. Alors après,
parce que là, on n'a pas l'impression qu'elles aient été vraiment très, très claires et nettes.
Ah bah après, les urnes, des fois, peuvent être aidées et facilitées.
Voilà, c'est ça. Voilà. J'avais plutôt cette impression-là. Mais bon, tout a été vérifié quand même. Il y a des organismes, des observateurs indépendants. Hein. Je pense notamment à l'Institut Jean Tiberi, qui fait un travail formidable. Et qui a constaté que oui, c'est vrai, effectivement, les urnes étaient aussi bourrées que Gérard Depardieu après une soirée Chablis vodka en douillette. Mais quand même, il a gagné. Bravo Poutine. J'ai rencontré également ce matin une traductrice russe-français. Est-ce que cette victoire est méritée?
Oh, je crois qu'il a vraiment pas... Enfin bon, quand on voit l'attitude des gens à propos de Poutine, je crois qu'il n'y a pas photo. Puis en plus, il n'y a personne en face, je veux dire.
Et oui, parce que c'est pas ça le problème.
Ah bah, c'est pas ça le problème, non, je pense pas.
Oui, parce que moi, je pensais que si, justement. Mais après, je juge pas. Mais attention, c'est comme notre candidature à nous, à la présidence de Radio France. Hein. Il y a quelques guignols sans intérêt en face. Voilà, donc on connaît ce genre de pratique, on est les seuls. Mais cette traductrice, est-ce qu'elle aime bien Poutine?
Je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien parce que je connais beaucoup de Russes, je vais souvent à Moscou et je vois sur place, si vous voulez, comment la situation évolue.
Alors, et vous n'avez pas envie d'être empoisonné au polonium?
C'est vraiment de la bille pour les chats, ça. Excusez-moi, mais...
Quoi donc?
Le polonium est la suite.
Oui, si votre chat est opposant politique aux journalistes, effectivement, hein, là, vous pouvez remplacer ses croquettes par un petit mélange du Kremlin. Ou si vous êtes le chat d'Iran.
Rigolo.
Et là, vous méritez de mourir, plutôt étouffé par ce jeu de mots pourri. Alors, je parle de journalistes et des opposants, mais on sait aussi que Vladimir, il aime pas trop les homosexuels, hein, n'est-ce pas, madame?
Bon, lui, c'est surtout attaqué à la publicité. Vous savez, ce qu'on voit dans nos kiosques, tous les têtus et autres joyeux machins, qui éventuellement, au niveau du nez des enfants, sont pas forcément...
Pourquoi têtus, ça choquerait les enfants?
Je sais pas, parce qu'il y a des messieurs un petit peu... Bon, ils sont sympathiques ensemble. Je veux dire, moi, j'ai plein d'amis homo. Ça me dérange pas du tout.
Ok, j'avais peur qu'elle soit homophobe, mais effectivement, elle a plein d'amis homo. Hein, donc, on est bon. Alors, ce qui était amusant au Salon du Livre, c'est que les Russes, ils étaient voisins d'un stand d'un pays qui s'y connaît bien en démocratie, qui est bien connu aussi pour ses penchants libertaires, l'Arabie Saoudite. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, ils étaient à côté, je suis allé les voir pour leur poser des questions aussi, voilà, notamment sur le droit des femmes.
Il y a une image stéréotypée qui fait pignon sur rue, c'est-à-dire, mais la réalité est au-delà de ça.
Ah, c'est pas le cas alors, les femmes sont bien traitées en Arabie Saoudite.
Les femmes se battent, font valoir leur capacité, leur...
Se font battre.
Non, pas à ce point. C'est-à-dire les femmes, sont coriaces, et quand ils veulent avoir quelque chose, ils y arrivent quand même.
Oui, souvent ce qu'elles veulent d'ailleurs, c'est des pierres dans la gueule ou rester à la maison, donc les femmes finissent toujours par arriver à leur fin. Bon, on connaît les femmes, on en a aussi chez nous. Alors, au stand de l'Arabie Saoudite, il y a des livres quand même, et pas seulement la lapidation pour les nuls.
J'étais vraiment surpris de la capacité de ces auteurs, c'est-à-dire d'écrire, de parler des sujets, mais parfois vraiment tabous. En Arabie Saoudite.
Est-ce que par exemple en Arabie Saoudite, on peut écrire un livre sur le droit des homosexuels ?
Bon, écoutez, c'est-à-dire si on se rapporte à ce genre de sujet pointu et tout ça.
C'est pointu, vous trouvez ?
Dans les années 50, je veux dire par là, c'est-à-dire chaque société a son rythme propre de se développer.
Voilà, on va dire comme ça. En plus, c'est pas faux.
Il chacun son rythme. Ses arguments.
Voilà, c'est parce que c'est pointu comme sujet. Voilà, chacun son rythme, hein, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Russie ou en France. Hein, c'est vrai, quand on regarde certaines unes de journaux, on voit que le roi n'est pas mort. Mais bon, au moins en disant ça, je vais vous dire, je risque rien. Alors, je trinque à la santé de la démocratie, la vraie.
Papa's got a brand new bag, vous avez reconnu Juliette?
Bien sûr, c'était Jean Marron.
C'était James Brown.
Et maintenant, c'est qui qu'on accueille?
Il n'y a pas de traduction possible, c'est Ariane Ascaride.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
On aime, on vous en parle. On aime Ariane Ascari, oui. On l'a invité aujourd'hui. Un ouvrage très intéressant, c'est-à-dire, il s'appelle Une force et une consolation.
L'alcool.
Avec Véronique Holmy, paru aux éditions de l'Observatoire, où Alex Vizorek, c'est un portrait en creux d'Ariane Ascari à travers sa lecture.
Il y a juste une question quand même que je me pose. Page 40, elle vous dit ces histoires dont tu étais imprégné, donc celles que vous aviez lues, tu avais envie de les transmettre, point d'interrogation. Et vous répondez non, j'ai toujours tout gardé pour moi. D'ailleurs, je sais très mal parler des livres.
Ouais, c'est vrai.
Mais pourquoi vous êtes fait chier à faire celui-là du coup ?
Ah mais non, mais je suis pas venue. On m'a demandé qu'est-ce que c'était qui m'aidait à vivre dans la littérature et quel était mon rapport à la littérature. Donc effectivement, j'ai dit ce qui m'aide, parce que la littérature, ça m'aide vraiment à tenir debout, vous voyez. Donc après, mais raconter un livre, c'est tellement compliqué aux gens. Mais,
et donner envie de lire ce qu'on a aimé, ça vous aviez envie de faire alors ?
Ah bah oui, ça oui, bien sûr, puisque de toute façon, je passe ma vie à faire ça, quoi.
Hein, dans une certaine mesure, textes, vous voulez dire.
À transmettre des textes, à jouer des textes, à faire entendre, à faire des lectures. Je suis la reine de la lecture. Je vais au marathon des mots toutes les années à Toulouse pour faire des lectures. J'adore ça. J'adore. Mais quand mes filles étaient petites, je lisais à haute voix. Je leur lisais à haute voix des livres.
Et vous dites que vous avez lu au musée d'Orsay, si je ne me
trompe.
Vous le dites dans le bouquin
oui,
et que ça vous avait beaucoup impressionné de faire ça parce que cette impression de rentrer dans un monument qui vous était presque peut-être interdit.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire que d'où je viens, mon pauvre monsieur.
Mais ça revient d'où souvent dans le bouquin, ce d'où vous venez. Vous dites la littérature m'a sauvé. Et c'est vrai, vous rappelez souvent vos origines modestes et que c'était pas instinctif d'aller dans une bibliothèque, c'était pas instinctif de tomber sur un livre.
Bah, c'était plus que pas instinctif, ouais. C'est que j'étais jamais allée dans une bibliothèque. En fait, aujourd'hui aussi, les choses ont quand même bougé. Les enfants vont plus facilement dans une bibliothèque, même avec l'école ou des machins comme ça. Moi, à mon époque, je suis allée une fois au cinéma avec l'école. Je suis allée voir Le Ballon Rouge. Je ne l'ai jamais oublié. C'était trop beau. J'aime toujours énormément ce film.
Film de communiste.
Oh non, c'est un beau film. Arrêtez. C'est quand même incroyable.
Non, mais c'est rigolo parce que vous dites dans le bouquin que les premières lectures, c'était Mickey.
Ouais.
Et Mickey dans une famille communiste, c'est quand même étrange.
Mais monsieur, on peut avoir des contradictions, non quand même.
Vous l'assumez totalement.
Totalement. Alors là, vraiment,
revient
totalement.
Hyper souvent. Souvent, ce personnage que du coup je connaissais pas, votre frère Gilles,
ouais.
C'est lui qui était le passeur de bouquins.
Oui, c'est lui qui était le passeur et en plus, dans une certaine mesure, il voulait que je le lise parce que lui, il aimait beaucoup Erckmann Chatrian, enfin, vous voyez, une littérature qui n'était pas la grande littérature et il voulait que moi, je lise de la grande littérature. Donc, il me passait des bouquins et il m'a fait lire, effectivement, c'est lui qui m'a offert Georges Sand, qui est vraiment le premier livre, voilà.
Dans les auteurs qui reviennent, Georges Sand, Balzac, Madame Bovary de Flaubert, évidemment, Sartre, et tout ça, on a envie de le lire. Vous m'avez donné envie de lire un bouquin que je ne connaissais pas, La femme de 30 ans de Balzac. Est-ce qu'il faut que je m'y mette cet été ?
C'est pour toi, Alex.
Très clairement. J'ai senti assez vite.
C'est absolument magnifique, il faut absolument lire ça.
Et je vais faire ça.
Et bien tout ça, c'est dans Une force et une consolation, avec Véronique Holmy, où on découvre les lectures d'Ariane Ascari et le cheminement. Et on va aborder ce premier sujet, un homme a décidé de se couper de l'information. Ah ça non, certainement pas. Décision prise le jour où Donald Trump a été élu. Alors il s'agit d'un ancien cadre de chez Nike, il a 53 ans, il habite l'Ohio. Eric Hagerman a méticuleusement planifié son retrait de l'actualité et de tout contact avec l'information. Parce que c'est tout un travail assez complexe, c'est vrai, de s'en couper. Parce qu'avant on vient de là.
Moi j'aime bien les informations quand il y a la guerre chez les Libyens. On peut voir des enfants morts parce que c'est pour nous informer. Et toutes ces filles qui se font enlever pendant qu'elles faisaient leur footing. Enlever en plein footing, elles devaient pas courir bien vite. Je sors plus de chez moi, j'attends les informations. Parce que pour être intelligent, on doit se tenir au courant. J'aime bien vous les billes.
Didier Super, lors d'un enregistrement réalisé dans la rédaction du journal Métro. C'est le seul trace de cet enregistrement qu'on ait trouvé de cette magnifique chanson pourtant. C'est un article du New York Times qui s'intitule « L'homme qui en savait si peu » et dont le site Rue 89 nous offre un compte-rendu. C'est le portrait d'Eric Hagerman qui raconte finalement l'envie et la fascination contemporaine pour la déconnexion. Lui se dit émotionnellement plus sain aujourd'hui qu'il s'en est coupé. Ariane Ascari, c'est aussi un peu eu un fantasme parfois chez vous qui suivez beaucoup l'actu.
C'est-à-dire que c'est vraiment de l'ordre du fantasme, hein, parce que moi je vis avec un homme qui a une radio greffée à son oreille.
On l'embrasse alors, il est là.
Embrassons-le.
Qu'est-ce qu'il écoute comme radio ?
Il écoute France Inter.
Ça tient bien en fait.
Oui, des fois.
Et donc c'est parce qu'il y a contact avec l'autre, avec l'humain.
C'est-à-dire que chez nous, l'info est en permanence. Et c'est vrai que des fois, un peu, ça m'angoisse.
Oui. Mais il arrive parfois que vous ayez envie de vous couper. Alors ça veut dire que ça s'organise.
C'est-à-dire que des fois, je mets des écouteurs, je mets de la musique, et j'écoute de la musique pendant qu'il regarde pour la 192e fois l'émission politique de machin, de ceci, de cela. Je me mets des trucs dans les oreilles parce que des fois, je n'en peux plus. Quoi.
Alors cet homme qui habite dans l'Ohio, il va beaucoup plus tôt que la moyenne des gens prendre son petit déjeuner. Comme ça, il est sûr de ne pas croiser la foule avec les portables, le journal qui traîne avec la une. Une organisation.
Mais vous trouvez pas que des fois c'est un peu angoissant?
Totalement.
On est bien passé pour le savoir.
Vous savez mieux que moi, quoi. Il y a des fois, il y a des moments où effectivement, moi je me rappelle, je sais pas comment ils font les enfants, parce que je me rappelle que moi quand j'étais enfant, la vie continuait, je n'écoutais pas les infos, et pourtant chez moi il y avait des infos, la radio était tout le temps allumée, mais j'arrivais à passer au travers. Aujourd'hui c'est impossible.
À côté du kiosque à bonbons, il devait y avoir un kiosque à journaux.
Vous lisiez pas les titres. Non, il y avait que le kiosque à
bonbons. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait de toute cette information. Alors nous on a trouvé la solution pour contre l'angoisse, nous on en discute et on en déconne de l'actualité, c'est une manière de faire. Mais c'est la question que cet homme se pose aussi. Il se disait finalement ce flot d'informations, qu'est-ce qu'on en fait de cette actualité à part dire des conneries autour d'un micro.
Mais qu'est-ce qu'elle nous fait aussi ? Parce que quand il dit que émotionnellement il se sent plus sain, c'est quand même c'est intéressant.
Ouais. Ariane Ascaride, vous en faites quoi, vous, de l'actualité, finalement, quand vous l'ingérez ? Elle nourrit vos indignations ?
Un peu, beaucoup. Certains matins où j'écoute France Inter dans ma cuisine, certains matins où je crie très fort, parce que l'invité de la matinale, parfois, certains matins, me porte sur les nerfs. Je ne dirai pas de nom, mais il n'y a pas longtemps, je me suis beaucoup énervée.
Chaque auditeur fera le lien en fonction des invités qui l'énervent le matin, c'est sûr.
Mais c'est un peu... Enfin, voilà, l'info, chez moi, c'est un truc... Et des fois, c'est vrai que c'est pléthore d'informations, par moments, m'empêche de réfléchir.
Eh oui, j'allais vous le dire, nous aussi, effectivement. Juliette Arnaud,
les parents, en règle générale, veulent absolument, je ne sais pas si vous avez remarqué, que leurs enfants lisent. Alors si, forcément, je comprends bien l'idée de base, si même je ne peux que m'enthousiasmer, je tiens à préciser, et la lecture de l'entretien d'Ariane Ascaride et Véronique Olmy va aller dans mon sens, je tiens à préciser que c'est aussi leur fournir des armes aux enfants pour être libres. Et qui dit libre même de ses parents. Lire, ce n'est pas qu'un exercice de la bourgeoisie qui permet de briller plus sûrement dans ses études supérieures, c'est s'évader, c'est foutre le camp, quitter son précaré et donc potentiellement sa famille et ses parents. Ou souhaiter qu'il n'existe pas, tout simplement, même juste 2 minutes. Parce que la littérature, elle est farcie d'histoires d'orphelins et d'orphelines. Hein. Et vas-y Dickens, et vas-y Rémi sans famille, et vas-y la petite princesse ou encore la petite fadette. Et elles sont sublimes ces histoires, elles sont passionnantes. Comment ne pas avoir envie d'être eux? Et paf, on en vient à 10 ans à appeler de ses voeux d'être comme eux. Bref, on est parricides des matricides avant même de maîtriser totalement la table de 7, la plus difficile, et le subjonctif de l'imparfait. Drama. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ainsi, on vous avait prévenu. Ariane Ascaride, elle... Son orpheline, c'est l'espiègle Lily. Alors, vous la décrivez, grande, blonde, ses jupes bougeaient. Elles étaient
comme
toujours
vous,
en mouvement. Là, c'est ça.
C'est vrai qu'elle était espiègle. Hein.
Sauf que Lily l'espiègle n'avait peur de rien. Et l'espiègle Lily, vous le rappelez, est de plus orpheline. Et je vous cite, vous le dites, et peut-être qu'au fond de moi, je me disais que c'était drôlement bien de n'avoir ni papa ni maman. J'ai fait la même chose. Mais moi, c'était la petite princesse. Alors, autre idée toute faite des parents, ces braves âmes, pendant que l'enfant lit, il est comme le chat, il ne fait pas le mal. Faux, tellement faux. Ainsi, notre invitée, Ariane, qui en secret, se met à lire à 12 ans La putain respectueuse de Sartre. Et je vous cite pareil, vous dites très précisément, je sens que ce livre brûle. Je sens. Brûle. Eh oui, les livres sont faits de chair, pour la chair. Il n'y a pas de dichotomie entre la tête et le corps. Encore heureux, les parents, souvenez-vous-en. Une dernière leçon, et pas des moindres. On ne peut pas dicter à un lecteur ce qu'il doit penser d'un livre, ce qu'il doit en conserver. Ariane Ascaride a lu et aimé Aurélien d'Aragon et Gilles de Dodrieu-La Rochelle. Elle sait que ce sont deux récits magistraux d'une génération de types broyés par la Première Guerre mondiale, ayant survécu, mais pas tant que ça. Elle, ce qu'elle dit... Surtout, c'est, ce sont des hommes fragiles, et c'est la première fois en lisant ces livres que je sens la fragilité des hommes. L'histoire avec un grand H passe alors après cette révélation-là. Lire, ce n'est pas forcément respecter les hiérarchies. Les hommes fragiles, et puis être l'ami d'une femme fragile. Vous dites, en parlant de Madame Bovary, j'ai une véritable amitié pour elle et sa solitude. Elle est tellement amie avec Madame Bovary qu'elle la lit une fois par an.
C'est pas vrai.
Ce qui est chic dans la vie, c'est de dire qu'on aime Flaubert, hein, et partant, de maîtriser un peu, voire beaucoup, Emma Bovary, ce que je trouve monstrueux. Et mépriser donc le personnage. Après tout, on a vite fait de dire que elle, Emma, n'est qu'une tête vide, hein, de dire un peu frustement que c'est quelqu'un qui ne fait que de la merde. Eh ben, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et comme le rappelle Ariane Ascaride, tout le monde aime se faire balader parfois, comme Emma se fait par exemple balader par Rodolphe. Lire, en fait, c'est apprendre qu'on n'est pas fait que d'un bloc, qu'on hésite, qu'on a des avis, que d'autres avis effacent, qu'on renacle, par exemple, avec Céline, à cause de l'homme, mais pas avec Drieu-La Rochelle, parce que, comme vous l'écrivez, parce que Drieu s'est suicidé, peut-être aussi parce qu'il était l'ami d'Aragon, peut-être. Peut-être aussi parce qu'un personnage n'est pas fait que d'une pièce, et que ça, c'est un enseignement majeur. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud.
Merci.
Le livre, donc, Ariane Ascaride avec...
Véronique Olmy, une force et une consolation, et c'est aux éditions de l'Observatoire.
Merci beaucoup Juliette. On va aborder ce dernier sujet avec vous Ariane Ascaride. Depuis que nous avons tous un agenda de ministre, annuler un rendez-vous à la dernière minute est devenu un acte, paraît-il, jouissif. Car il vous libère soudain d'une plage horaire où vous n'avez rien prévu du tout. Alors vérifions auprès d'une collègue de bureau, on a testé comme ça l'annulation à la dernière minute.
C'est bon, oui. Oui. Oh, mon Dieu. Oh, oui. Oui.
Oui, oui, non, c'est bon. Alors, ça va. La collègue était très, très contente d'annuler son rendez-vous.
J'ai bien la même chose que la dame.
C'est un article à lire sur slate.fr voilà, qui prétend qu'aujourd'hui, nos vies sont tellement organisées, l'agenda est tellement serré, en tout cas pour une population classe moyenne urbaine, on va dire, que ça procure un soulagement instantané, parce qu'il y a un temps qui se libère comme ça. Est-ce que, Ariane Ascaride, ça vous arrive d'annuler et de connaître ce soulagement, ou vous trouvez que cet article est truffe?
Après le son, on est dans la merde, Ariane Ascaride.
Non, en fait, j'annule peu, moi.
C'est vrai?
Ouais. J'annule très peu, même je suis un peu staccanoviste, je dirais. Oui. Je suis un peu tarée, quoi.
Vous mettez
ça.
Un point d'honneur à honorer les rendez-vous.
Ouais. Ouais. Mais c'est, j'imagine, enfin, les rares fois où ça m'est arrivé, parce que je ne pouvais pas faire autrement, vraiment, c'est cette sensation, vous savez, quand vous êtes à l'école et que le prof est absent.
C'est ça, exactement.
C'est génial. C'est absolument génial quand d'un coup, le pion arrive et dit « Vous n'avez pas de cours, monsieur Machin est absent. » Et là, d'un coup, vous avez l'impression que la vie vous tend les bras. C'est extraordinaire.
Ah oui, c'est exactement ce que raconte l'article. Hein, ça
est-ce
libère.
Que, du coup, vous qui n'annulez que peu, oui. Est-ce que vous vous organisez pour ces moments-là? Est-ce que vous vous dites, ben là, je vais me laisser une heure et je verrai bien ce que je vais faire?
Ouais, ça oui, ça je le fais. Oui, oui, absolument. Mais je suis vraiment un peu tarée quand même avec ça. Je me fais beaucoup engueuler par mon mari parce que je dis toujours, ah non, non, faut y aller, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. J'ai un peu un côté un peu comme ça, quoi, un peu bon élève.
Bah quand on dit oui, c'est oui, hein, sinon
oui,
on n'a voilà. Qu'à dire non. Enfin,
mais je oui,
dis ça
mais je ne sais.
Toutes celles qui ont pris rendez-vous avec moi et qui ont passé chez intéressées par ce sujet, parce que beaucoup d'annulations quand même.
Oui, des annulations.
Il y a beaucoup d'annulations.
Ouais, d'accord, ah, je comprends. Mais ça, c'est... Voilà pour cet article à lire sur slate.fr qui explique qu'aujourd'hui, chaque heure de notre journée compte et qu'on planifie, on s'impose une structure temporelle aux événements et cela transforme parfois ces événements en corvées. Écoutez...
Pas faux.
À voir.
C'est pas faux. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas faux.
C'est tout le lot du troisième sujet.
C'est ça,
hein,
c'est ça. Ouais,
non, mais j'ai déjà
c'est de
brasser. J'en ai connu des pires. Hein.
De brasser un peu de vide afin que tout le monde soit dans une température idéale pour accueillir.
Il est derrière vous. Bonsoir Frédéric Fromet.
Bonsoir.
De quoi allez-vous nous chanter aujourd'hui?
Eh bien, à la faveur du 7e anniversaire du déclenchement de la petite sauterie à Fukushima, voici une chansonnette que j'espère rayonnante. Je m'appelle Uranium, c'est moins cool que Géranium. Pur, pur d'être un déchet, pur, pur d'être un déchet. Bouge d'ici, tire-toi de là, viens pas t'enterrer chez moi. J'entends bien les palabres du zadiste dans son arbre qui veut pas que l'on creuse, que le sous-sol soit dégueulasse, compte tenu que la Meuse est déjà moche en surface. Pur, pur d'être un déchet, pur, pur d'être un déchet. Poubelle jaune, poubelle verte, on sait pas toujours trier. Et quand à Bure, on projette de s'en foutre, vous gueulez. Je n'allais quand même pas m'enterrer à Chambéry, car l'atome de sa voix, c'est trop un jeu de mots pourris. Mais je l'ai quand même dit, pur, pur d'être un déchet, pur, pur d'être un déchet. Ce fiasco dans les airs, à Notre-Dame-des-Landes, maintenant Bure sous terre, et les beatniks se défendent sans voir que le bonus, c'est du taf à tour de bras, même s'il y aura bien plus de radiation qu'à Pôle emploi. Pur, pur d'être un déchet, pur, pur d'être un déchet. Là où je vous rejoins, c'est quand Areva devient Orano. Ça fait peur, j'en conviens, ça fait presque Morano. De toute façon, je sais bien que dans ce foutu pays, on n'aime pas les rupins, alors l'uranium enrichit. Pur, pur d'être un déchet, pur, pur d'être un déchet. Rien ne vaut le nucléaire, car c'est une énergie propre. Il faut pas vous en faire, oui, je suis un déchet propre. Ce programme d'enfouissement est une forme d'élévation, mais hélas, mes opposants n'aiment pas la science-fiction. J'en ai encore plein comme ça. C'est dommage, les savants et les mangeurs de tofu. C'est dommage, oui, vraiment, qu'il n'ait pas d'atome crochu. C'est le camp de la chienlit contre celui des despotes. Peut-on parler démocratie en dénigrant le droit de vote? Pur, pur d'être un déchet, pur, pur d'être un déchet. Le nucléaire, c'est pas mal pour faire des blagues sympas. Le type me dit, j'ai fait centrale, Tchernobyl ou Fukushima. Il me répond, je suis aux affaires. Alors je lui demande, tragicomique, ce serait pas le ministère de la trahison écologique? Je m'appelle Uranium et ça craint un maximum. Et si l'on décidait d'enterrer plutôt le projet? Pur, pur d'être un déchet.
Ah bah merci beaucoup Juliette.
Ah mais le plaisir était pour moi Charline. Ah.
Et on se retrouve demain en direct avec les chanteuses du groupe IBI.
À demain Charline.
Allez, à demain Juju.